Chrétien par temps de crise, voici une conférence de frère Guillaume enregistrée lors des conférences de carême des Dominicains de Bordeaux le 28 février 2021. Conférence du frère Guillaume intitulée « Dormez bourgeois, l'État veille ».
Dans le cadre des conférences de carême 2021, autour du thème « Être chrétien en temps de crise », nous abordons maintenant les rivages joyeux des rapports entre les chrétiens et la politique, les chrétiens et la cité en général. Ainsi donc, cette conférence s'intitulera, avec malice, « Dormez bourgeois, l'État veille ». Vous connaissez sans doute la phrase fameuse de Karl Marx, qui a souvent été reprise par mode de slogan. Je vous la cite. « La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. » Et Marx en tire aussitôt la conséquence. « Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. » Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole. Ces propos datent de 1843 et sont extraits de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Cette critique de Marx entend extirper l'illusion religieuse de l'intelligence humaine pour atteindre à la réalité même des choses en vue de la transformer. Et la religion, précisément parce qu'elle ouvre l'esprit humain à des perspectives extramondaines, transcendantes, représente, aux yeux de Marx, sinon une fuite du réel, du moins une ouverture, un exutoire qui rendrait incapable de s'affronter aux difficultés du temps présent. Autrement dit, la religion est un anesthésiant, un analgésique qui entrave, qui retarde la venue du vrai bonheur. Le mouvement qui a conduit les États à marquer la distinction d'avec les religions a provoqué la fin de ce que l'on appelait la chrétienté, pour laquelle l'ordre politique était compris comme devant être conforme à l'Évangile, à sa finalité, aux principes qui s'en dégagent. L'ordre temporel était perçu, spontanément, comme tout entier subordonné à l'ordre spirituel. Au XVIIIe siècle, avec, pour le marquer d'une formule un peu simple, la philosophie des Lumières, une fracture s'est faite qui a conduit progressivement jusqu'à la séparation de l'État et des Églises. Et nous avons connu cela en France avec la loi de séparation de l'État et des Églises du 9 décembre 1905. En voici le début. Dans les principes, article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2e, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Sans doute, aujourd'hui, ne mesurons-nous pas assez la gravité de cette séparation. Selon l'essayiste américain Rod Dreher, je le cite, « Pour la première fois dans l'histoire, l'Occident cherchait à construire une culture sur l'absence de foi en un ordre plus haut qui commanderait notre obéissance. » En d'autres termes, poursuit Dreher, l'Occident créait une anticulture qui rendrait impossible la fondation d'une culture stable. Le fait de renoncer à Dieu ou au Dieu fait disparaître du champ politique l'enracinement dans un ordre plus grand. Et dès lors, il n'est pas étonnant que l'État en soit venu à se substituer aux religions. Conformément aux principes énoncés par Chesterton, dans l'une des nouvelles du père Brown, du Father Brown, je cite, « Le premier effet du refus de croire en Dieu, c'est de perdre le bon sens. » Déjà, à l'époque révolutionnaire, on avait organisé le culte de l'être suprême en 1794, et on en avait célébré la fête le 8 juin de la même année. Mais l'on assiste aujourd'hui au pas suivant. L'État se juge supérieur aux religions. Il ne s'agit pas seulement de s'en séparer, mais de se placer au-dessus. Et l'État s'institue donc lui-même comme ultime instance suprême. De la sorte, on pourrait dire avec une certaine ironie que c'est l'État qui nous y invite. Si la religion était l'opium du peuple, le peuple, l'État devenant Dieu, c'est lui qui nous demande « Dormez bourgeois, je veille ». Ainsi, le monde achèverait de sortir de la chrétienté et de la religion. Il n'est rien au-dessus de l'État. Mais alors, que devient l'Église ainsi expulsée? Sur quel rivage le Léviathan la recrache-t-il? Et nous, que devenons-nous? Que pouvons-nous encore faire? Dans un premier temps, affinons le constat de la situation où nous sommes aujourd'hui. Les événements qui ébranlent non seulement notre pays, mais encore le monde entier, ne font pas merci à l'Église. Solidaire des personnes et des peuples, présente en tout lieu de l'orbe terrestre, elle n'est pas indifférente à ce qui affecte l'humanité. Le second concile du Vatican le proclamait en une formule bien connue désormais. C'est dans Gaudium et Spes, au premier paragraphe. Je cite « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Fin de citation. Comme les autres, nous, chrétiens, à l'occasion de cette épidémie mondiale, avons vu notre vie quotidienne bouleversée par les confinements successifs, par la marée d'informations contradictoires, sans cesse alimentées par les médias, par les atermoiements, les palinodies souvent incompréhensibles de responsables politiques visiblement désemparés, par l'angoisse sourde et omniprésente causée par cet invisible virus. Comme les autres, nous, chrétiens, avons eu à prendre conscience à nouveau que la mort fait son œuvre dans le monde. Nous la voulions, cette mort, aseptisée, propre, clinique, et pour ainsi dire toute théorique, comme une possibilité gênante, qu'on balayerait aussitôt d'un revers de main ganté pour n'y point penser. Grisés par le progrès médical et technologique, nous avions peut-être écarté avec trop de légèreté l'avertissement de l'Écriture sainte. Dans le livre du Siracide, au chapitre 7e, c'est le verset 36, « Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin, et jamais tu ne pécheras. » Et c'est ainsi que la sagesse des moines les invite à avoir tous les jours la mort présente devant les yeux. Comme les autres, les chrétiens ont eu à goûter la précarité d'un quotidien que nous tenions pour acquis, oubliant ainsi l'avertissement de Paul Valéry au sortir de la Grande Guerre. Il écrivait cela en 19, dans la crise de l'esprit. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Mais à la différence de beaucoup, c'est ajouté spécifiquement aux croyants la suspension de notre culte public. Quasi du jour au lendemain, il n'a plus été possible de se rassembler pour la célébration de la messe. Alors, nous avons multiplié les propositions alternatives qui invitaient à redécouvrir la liturgie des heures, la prière en famille, la lectio divina, nos liturgies domestiques. Souvenez-vous, c'était il y a si peu de temps. Et malgré tout, l'une des dimensions les plus fondamentales, constitutives même, de la vie chrétienne, a reçu un coup d'arrêt brutal. J'y reviendrai. Nous avons été comme sidérés par cette épidémie et par ce confinement. Comme un animal pris dans le faisceau lumineux éblouissant des phares d'une voiture la nuit n'arrive plus à bouger, nous avons été stupéfiés. Et de nombreuses questions, souvent sans réponse, ont alors vu le jour. Fallait-il suspendre le culte ou le maintenir en dépit de l'épidémie? A-t-on bien fait de suivre, parfois même de précéder les injonctions venues de l'autorité politique? Ne fallait-il pas obéir à Dieu et lui rendre le culte public plutôt qu'aux hommes et à leurs lois. Et c'est dans ce contexte que s'est manifestée, de manière peut-être plus nette qu'auparavant, la quasi-inculture de nos dirigeants en matière de religion. Rappelez-vous, par exemple, la docte affirmation de M. Castaner, alors ministre de l'Intérieur, c'était le 3 mai 2020. Je le cite, « La prière, elle se fait dans son rapport à celui qu'on accompagne, célèbre, chacun choisira le mot en fonction de sa religion, et n'a pas forcément besoin de lieu de rassemblement. » Mais Monsieur le ministre ignorait visiblement que l'Église, le mot « église » vient du mot grec « ecclésia » qui signifie « rassemblement »,« assemblée ». Et donc l'Église a besoin d'un lieu de rassemblement, car son rassemblement n'est pas que spirituel, il est charnel. Ainsi, l'interdiction de se rassembler en communauté de prière, c'est la négation directe de l'Église dans ses dimensions charnelles, visibles, liturgiques. Plus récemment, les débats autour du projet de loi confortant le respect des principes de la République ont vu le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, affirmer la supériorité des lois de la République sur la loi de Dieu. Je le cite, et c'était sur France Inter le lundi 1er février 2021. Monsieur Darmanin disait donc « Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. » Alors certes, vous allez me dire que ces propos visaient des associations musulmanes qui refusaient de signer la charte de l'islam de France. Mais n'allons pas croire que les catholiques seraient exonérés de cette même exigence. En effet, Monsieur Darmanin avait déjà déclaré, de manière générale, comme énonçant un principe absolu, je le cite, « La loi de la République est plus forte que celle des dieux ». C'était sur Europe 1, le 4 octobre 2020. La loi de la République est plus forte que celle des dieux. Ce sujet ferait le bonheur et le ravissement du moindre élève de terminale. On le constate sans peine. Il y a comme une prétention positiviste à essentialiser la République, ce qui n'est en réalité qu'une modalité contingente de l'agencement de la vie de la cité, l'organisation politique d'un État où le pouvoir n'est pas héréditaire, mais partagé et exercé par les représentants, élus, d'une partie ou de la totalité de la population, la République donc, devient comme une instance quasi-divine, nouvelle divinité, enfin vraie, placée au-dessus des dieux, faux évidemment, des religions. Une telle instanciation, une telle essentialisation ne peut que poser de façon problématique la question de l'articulation entre les lois des hommes et celles des dieux, entre les lois temporelles et les lois éternelles, entre les lois contingentes et les lois nécessaires. Rassurons-nous, la question n'est pas neuve, on le sait. Elle se pose depuis l'Antiquité grecque. À titre d'illustration, voyez le dialogue entre Créon et Antigone dans la tragédie de Sophocle, par exemple. Créon, qui gouverne la cité, l'oncle d'Antigone, devant l'affrontement entre Éthéocle et Polynice, les deux frères, décide d'interdire que le corps de Polynice, qui s'est opposé à la cité, qui est entré en guerre contre elle, soit relevé sur le champ de bataille et mis en terre dignement. Et vous savez qu'Antigone transgresse la loi énoncée par Créon, elle prend le corps de son frère Polynice et le met en terre. Créon. Et ainsi, tu as osé violer ces lois ? Antigone. C'est que Zeus ne les a point faites, ni la justice qui siège auprès des dieux souterrains. Et je n'ai pas cru que tes édits pussent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtié par les dieux. Se pose donc à nous la tâche de chercher à comprendre comment s'articule notre foi chrétienne avec le vaste monde politique. Comment se mettent en cheville ces doubles réalités, religieuses d'un côté, loi des dieux, politique, loi des hommes de l'autre. Dans une deuxième partie, donc, nous cherchons à répondre à cette question, ou en tout cas, à déterminer les principes qui permettent d'y répondre. Comment articuler politique et religion? J'emprunte beaucoup dans cette partie au frère François Daguet, dominicain, qui a publié, il y a quelques années, en 2012, une extraordinaire et très belle chronique de théologie politique et de doctrine sociale, sobrement intitulée « La doctrine catholique du politique », paru dans la revue Thomiste. Dans le magistère récent des papes, donc, trois grands principes se dégagent. La distinction des sphères de compétences et leur autonomie, l'existence d'un juste fondement éthique de l'ordre politique et la nécessaire coopération des deux ordres. Donc, premièrement, la distinction des sphères de compétences et leur autonomie. Que l'État ait voulu se séparer de la religion, c'est un fait. Qu'en dit l'Église? Eh bien, cette séparation du politique et du religieux est acceptée par l'Église. Ainsi, Gaudium et Spes, la constitution du Concile Vatican II, au paragraphe 36e, au point numéro 2 de ce paragraphe, énonce, je cite, « Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Non seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, j'ouvre une parenthèse, ce qu'ont fait les États qui se sont séparés des religions, fermez la parenthèse, non seulement donc cette exigence est pleinement légitime, mais elle correspond à la volonté du Créateur. C'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leurs ordonnances et leurs lois et leurs valeurs propres. Une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime, elle correspond à la volonté du Créateur. Retenons cela. Ainsi, le but premier de l'État n'est pas d'abord de tendre vers le religieux. Son devoir essentiel, son but premier, est d'établir l'ordre juste de la société. Le devoir essentiel du politique, c'est l'établissement de l'ordre juste. Et saint Augustin, au quatrième livre de la Cité de Dieu, écrivait déjà, il y a quelques 15 siècles, « Enlève le droit, et alors, qu'est-ce qui distingue l'État d'une belle bande de brigands ?» La distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu, que l'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 22e, verset 21, c'est-à-dire la distinction entre l'État et l'Église, entre les réalités terrestres et célestes, appartient en réalité à la structure fondamentale du christianisme. Mais cette distinction qui autonomise le politique vis-à-vis du religieux est réciproque. Si l'État n'est pas soumis aux religions, en retour, les religions ne sont pas soumises aux politiques et à l'État. Le Concile Vatican II, dans la déclaration Dignitatis Humanae, au paragraphe 2e, déclarait « Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit. De telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu, entre parenthèses révélation, et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Ainsi, autonomie du politique, mais en retour, autonomie du religieux. Nous avons donc, comme premier grand principe, deux domaines distincts, le politique et le religieux, qui sont toujours en relation de réciprocité. Et cette double autonomie du politique et du religieux, marquée par une relation de réciprocité, permet d'élaborer une juste conception de la laïcité. Deuxième principe, après la distinction des sphères de compétences et leur autonomie, l'exigence d'un juste fondement éthique de l'ordre politique. L'autonomie du politique et du religieux ne prive pas l'Église de son droit à juger des affaires morales. Elle l'affirme dans la Constitution du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, paragraphe 76e, numéro 5. Il est juste, je cite, que l'Église puisse partout et toujours prêcher la foi avec une authentique liberté, enseigner sa doctrine sociale, accomplir sans entrave sa mission parmi les hommes, porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et cela seulement, qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. Porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique. Qu'est-ce qui fonde l'Église à porter ce jugement moral en des matières qui touchent le domaine politique? Eh bien, ce sont les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes. Il y a donc bel et bien un légitime pluralisme des options de gouvernement. On peut envisager différents types de gouvernement. Le modèle républicain n'est pas le seul. Et cela est légitime. Ce qui est illégitime, en revanche, et ce qui donne à l'Église le devoir d'intervenir, ce qui est illégitime, donc, c'est le pluralisme des conceptions de la personne. En 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi fait paraître une note doctrinale signée par le cardinal Ratzinger avec l'approbation du Saint-Père, Jean-Paul II. Et au numéro 3, au paragraphe 3e de cette note doctrinale, on peut lire, je cite, « La liberté politique n'est pas fondée et ne peut pas l'être sur l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont la même vérité et la même valeur, mais sur le fait que les activités politiques visent pour chaque cas à la réalisation extrêmement concrète du vrai bien humain et social, dans un contexte géographique, économique, technologique et culturel bien déterminé. » Donc ce qui est récusé, c'est l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont même vérité et valeur. Ce qui fonde en revanche la liberté politique, c'est le fait que les différentes activités politiques visent la réalisation concrète du vrai bien. Et précisément, l'Église a apporté la lumière de l'Évangile dans le monde pour faire connaître le vrai bien. Parce que des conceptions erronées de la personne engendrent des conséquences néfastes. Avortement, statut de l'embryon humain, chimère dans la recherche biomédicale, euthanasie, théorie du gender, statut et nature du mariage, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui. Toutes ces dérives procèdent de conceptions foncièrement erronées de la personne humaine. Face à ces questions d'une actualité qui est plus que brûlante, nous sommes en plein dedans, l'Église a le droit et le devoir de porter la lumière de l'Évangile dans le monde. Pour commencer, il s'agit de refuser le positivisme juridique, c'est-à-dire la conception selon laquelle une loi est légitime dès lors qu'elle est légalement adoptée. Non, la légalité seule ne suffit pas à dire le juste véritable. Le légal ne fonde pas le moral. Et le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1902, cite saint Thomas d'Aquin. Je cite « La législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle. Dans la mesure où la législation humaine s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, car elle ne vérifierait pas la notion de loi. Elle serait même plutôt une forme de violence. » C'est extraordinaire. Une loi humaine qui s'écarte de la raison, qui ne se conforme pas à la raison, perd son caractère de loi. Autrement dit, dans notre société postmoderne, qui a porté le soupçon même sur la raison humaine, l'Église fait sans doute partie des derniers défenseurs de la raison humaine. L'Église fait partie de ceux qui ont encore confiance dans la capacité de la raison humaine, capacité naturelle, à chercher, à trouver, à connaître le vrai bien de l'homme. Si l'Église est fondée à parler, c'est parce que l'autonomie, l'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale. L'Église parle parce qu'elle annonce une norme objective qui porte le bien et le mal et qui échapperait aux variations humaines. Cette norme, c'est celle de la loi naturelle, qui est inscrite dans le cœur de l'homme, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Inscrite dans le cœur de l'homme de sorte qu'elle est accessible à la raison de l'homme, même sans le secours de la révélation. Vous voyez la confiance de l'Église dans la raison humaine. Et je cite de nouveau la note doctrinale de 2002 au paragraphe 2e. L'histoire du XXe siècle suffit à montrer que les citoyens qui ont raison sont ceux qui jugent totalement fausse la thèse relativiste selon laquelle il n'existe pas de norme morale enracinée dans la nature même de l'homme, au jugement de laquelle doit se soumettre toute conception de l'homme, du bien commun et de l'État. Autrement dit, l'Église veut défendre les fondements mêmes de l'ordre démocratique, qui pourrait bien se détruire à force de saper ses propres bases. Distinction des sphères de compétences et leur autonomie, exigence d'un juste fondement éthique de l'ordre politique, et enfin, nécessaire coopération de ces deux ordres. Le but du politique, avons-nous dit, c'est la recherche et la constitution de l'ordre juste pour la société. Pour le formuler autrement, on peut dire que l'État cherche à faire prévaloir la justice. L'Église, elle, de son côté, si elle ne se désintéresse évidemment pas de la justice, cherche d'abord à vivre de la charité. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux termes. Il est en effet besoin d'un ordre de justice pour pouvoir vivre la charité. Benoît XVI l'écrivait au numéro 28 de Deus Caritas Est. Je cite, « La charité sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'existe pas d'ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de la charité. La charité sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. » Et en outre, l'Église s'intéresse de très près à la fondation, à la recherche d'un ordre juste. Et à cette fin, elle contribue à la purification de la raison et au réveil des forces morales, sans lesquelles il n'est pas de structure juste possible. Ainsi, pour l'Église, la foi permet une purification de la raison. Tout comme, en retour, la raison peut jouer ce rôle purificateur et structurant à l'intérieur de la religion. C'est ce que Jean-Paul II a longuement développé dans son encyclique de 1998, Fides et Ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes par lesquelles l'âme peut s'élever jusqu'à la connaissance de Dieu. Autrement dit, pour reprendre des mots de Benoît XVI, dans son discours aux membres du Parlement et de la British Society, lors de son voyage en Grande-Bretagne, la religion n'est pas un problème que les législateurs doivent résoudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national. Ainsi donc, trois grands principes. Distinction des sphères de compétences, juste fondement éthique de l'ordre politique et nécessaire coopération des deux ordres. Ces trois grands principes, rapidement esquissés, nous permettent d'ores et déjà de tirer quelques conclusions sur notre manière de vivre en chrétien, notre rapport aux politiques. Première conclusion, en raison même de l'autonomie des réalités terrestres, alors il faut reconnaître la détermination libre des moyens, des modes de gouvernement par les institutions compétentes. C'est ainsi que l'Église reconnaît la diversité légitime des régimes, avec toutefois une préférence pour l'organisation démocratique. Et la note doctrinale de 2002 le dit, au paragraphe 33e, l'Église a conscience que si d'une part le chemin de la démocratie exprime la participation directe des citoyens aux choix politiques, d'autre part, il n'est possible que dans la mesure où il est fondé sur une juste conception de la personne. Donc, première conclusion, détermination légitime, libre, libre, légitime. Et on peut s'attendre par conséquent, à des divergences d'opinion en matière de politique parmi les chrétiens. Une divergence d'opinion politique ne fait pas de tel chrétien un chrétien moindre. Deuxième petite conclusion, l'appel au respect des principes fondamentaux d'une éthique naturelle. L'autonomie du politique est réelle. Il n'est pas directement et premièrement subordonné aux religieux. Néanmoins, son autonomie est subordonnée au respect des principes éthiques fondamentaux. La souveraineté du politique n'est donc pas absolue, mais relative à la reconnaissance par la raison de la loi naturelle. Jean-Paul II y a insisté longuement dans Veritatis Splendor en 1993, dans Evangelium Vitae en 1995. Et nous l'avons déjà vu, une loi qui s'écarterait ou qui contredirait la loi naturelle perdrait sa qualité de loi. Donc, première conclusion, diversité légitime. Deuxième conclusion, respect, appelé à respecter les principes fondamentaux d'une éthique naturelle. Troisième conclusion, le refus du laïcisme. Par laïcisme, j'entends cette attitude qui consiste à refuser aux religions, en général, mais au catholicisme en particulier, le droit d'agir en politique conformément aux convictions religieuses sur le bien commun. On entendrait ainsi refuser à la foi chrétienne toute importance politique et culturelle. Deux attitudes se dégagent. La première, vous l'avez entendu souvent à la télévision, dans les médias, est celle d'hommes qui s'affirment chrétiens par ailleurs, et il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité de leur foi, mais qui font une distinction radicale entre ce que je crois personnellement en privé pour ma part moi-je, et ce que je mets en œuvre comme politique. Et l'on aboutit ainsi parfois à une sorte de schizophrénie radicale entre la conviction religieuse de foi intérieure et l'agir politique. On agirait parfois contre ce que notre foi nous dicte. Schizophrénie grave, dans la mesure où elle pousse à agir contre ce que la conscience montre comme vrai. Et aller contre sa conscience est toujours un péché. Autre attitude que l'on retrouve est celle qui consiste à disqualifier un interlocuteur en raison même de son appartenance religieuse. Il y a quelque temps, alors ce n'était pas en France, mais aux États-Unis, s'est tenu l'examen de Madame Amy Coney Barrett, qui avait été choisie pour faire partie de la cour d'appel aux États-Unis. Et donc, elle a dû passer un entretien de confirmation devant un aréopage de ses pairs, issu des deux bords, démocrates et républicains. Et l'une de ses interrogatrices, de ses examinatrices, lui a reproché sa foi, mettant en cause toutes ses réponses qui, du fait que Madame Barrett était catholique, devenaient suspectes d'être idéologisées. Et en conclusion, Madame Feinstein, démocrate, a fait remarquer à Madame Barrett « Quand vous parlez, j'entends que le dogme vit très fort en vous. » On cherche donc à jeter le soupçon sur la sincérité, la bonne foi ou la compétence des croyants en raison même de leur foi. Mais alors l'Église, en refusant le laïcisme, en persistant à parler encore et encore, devient pour ce monde un signe de contradiction, le signe de contradiction nécessaire qui empêche le bourgeois de s'endormir sur ses lauriers fanés, qui empêche de tomber de mal en pis en suivant l'État joueur de flûte de Hamelin. Quatrième conclusion, une participation effective à la vie de la cité. Déjà en 1988, Saint Jean-Paul II l'écrivait dans son encyclique consacrée aux fidèles laïcs du Christ, Christi Fideles Laici, c'est le numéro 42. Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, c'est-à-dire à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir le bien commun. Autrement dit, c'est pour nous chrétiens un devoir que de participer aux élections, que d'aller voter, que de ne pas se détourner de l'isoloir pour des motifs qui ne seraient pas justes. Il s'agit pour nous, chrétiens, d'ordonner l'ordre temporel selon Dieu, d'agir en chrétiens, c'est-à-dire en citoyens cohérents avec leur foi chrétienne. Il faut le savoir, cette cohérence peut parfois être onéreuse et coûteuse. Elle est un combat, un vrai combat. Et ce qui se joue, c'est rien moins que notre fidélité à Dieu, notre fidélité à la voix de Dieu qui parle. Thomas More, par exemple, illustre à merveille cette fidélité à Dieu dans un contexte hostile. Voici ce qu'écrivait Benoît XVI dans son discours aux membres du Parlement. Je cite, « J'évoque maintenant la figure de Thomas More, qui est admirée aussi bien par les croyants que par des non-croyants, pour l'intégrité avec laquelle il a suivi sa conscience, fût-ce au prix de déplaire au souverain, Henri VIII, dont il était le bon serviteur. Et cela, parce qu'il avait choisi de servir Dieu avant tout. » Notre conscience est toujours première. Elle est en effet le sanctuaire dans lequel Dieu s'exprime. Elle est le lieu de la rencontre entre Dieu et nous. Et c'est ainsi que John Henry Newman, dans une lettre au duc de Norfolk, écrivait, en parlant de la conscience et de son primat, je cite, « Elle est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous intime des injonctions. N'est-elle pas comme la voix de Dieu qui vient du fond de l'homme et qui parle à son cœur et qui est distincte en cela de la voix de la révélation ? La conscience est comme un témoin intérieur à nous-mêmes de l'existence de Dieu et de sa voix. La conscience n'est pas qu'un ensemble de principes naturels, elle est une loi de notre esprit qui nous fait des injonctions. Loi qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. » Et le cardinal Newman a cette formule, « La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. » Cinquième conclusion, prendre la parole publiquement. C'est encore Benoît XVI qui parle, cette fois-ci dans son discours de bienvenue à la Maison-Blanche. Je cite, « La défense de la liberté exige le courage de s'engager dans la vie civile, en faisant prendre compte, par la réflexion dans le débat public, de nos propres convictions religieuses et de nos valeurs les plus profondes. En un mot, la liberté est toujours à renouveler. Elle est un défi lancé à chaque génération et il faut constamment le remporter dans le combat pour le bien. » Mes amis, ce combat pour la liberté, nous en sommes. Nous ne sommes pas extérieurs, comme, vous savez, au bord de la piscine, regardant ceux qui s'y ébattent. Ce combat pour la liberté, cette exigence, ce devoir, cette responsabilité de dire nos convictions religieuses, de chercher à en vivre, non pas parce que ce sont nos valeurs seulement, mais parce qu'elles sont une bonne nouvelle pour le monde, parce qu'elles promeuvent le bien commun. Ce devoir, c'est le nôtre. Nous ne pouvons pas nous y dérober. Alors, troisième grande partie, dans un monde post-chrétien, à la lumière de ce constat, à la lumière de ces grands principes, comment faire pour rester chrétien ? Comment vivre ? Que nous faut-il faire ? Affranchie du pouvoir politique, l'Église recouvre sa liberté. Elle ne doit rien à l'État, en dehors de ce que nous avons vu. Si bien que, comme la femme qui renonce à se marier dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7e, elle peut s'occuper tout entière des seules affaires de son Seigneur. Après les siècles de chrétienté, et ces siècles ont été beaux et bons sans doute, mais enfin, l'Église souffrait de l'intrusion du politique, de l'intrusion du prince, qui voulait nommer les évêques, les faire et les défaire, les placer, les déplacer, du prince qui intervenait à temps et à contre-temps, jusque dans les affaires les plus spirituelles internes à l'Église. Après ces siècles, l'Église est redevenue libre. Et l'Église, enfin libre, se retrouve aujourd'hui pauvre, petite et presque impuissante. Et bien plus, inconnue. Nos contemporains ne connaissent l'Église que par des images fausses, appartenant à de faux passés projetés, construits, irréels. En réalité, ils ne connaissent pas l'Église, ils ne connaissent pas l'Évangile, ils ne connaissent pas le Christ, ils n'en connaissent ni la mort ni la résurrection. Ce n'est donc pas tant qu'ils ne nous aiment pas, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'Église, c'est qu'ils ne la connaissent pas, ils n'en savent rien. Et les seules informations que l'immense majorité de nos contemporains ont de l'Église, c'est ce que les médias, ignorant eux-mêmes, bien souvent, leur transmettent. Il y a donc une immense affaire d'ignorance. Et c'est une chance. En 1997, le cardinal Ratzinger répondait à Peter Sewald dans un livre d'entretien, Le sel de la terre. Je le cite. « Je n'oserais pas vous dire que nous nous trouvons devant les commencements de l'ère chrétienne, car qu'est-ce exactement une ère chrétienne? Ce que je peux réellement partager, c'est l'idée que le christianisme a toujours la chance de pouvoir recommencer. J'ai écrit un jour que le christianisme est toujours en même temps grain de sénevé et arbre, que c'est toujours en même temps le vendredi saint et Pâques. Le vendredi saint n'est jamais simplement derrière nous, il est toujours là. Et l'Église n'est jamais un arbre dont la croissance est achevée et se dessécherait et s'arrêterait ensuite à un moment quelconque. Mais elle est toujours aussi dans la situation du grain de sénevé. Je suis tout à fait d'accord pour penser que nous sommes de nouveau devant un commencement et que nous pouvons donc en nourrir l'espoir. La tâche de croire entièrement à partir de la liberté et pour la liberté et de croire en témoignage contre un monde épuisé, cette tâche porte en elle de nouveaux espoirs, de nouvelles possibilités, de nouvelles possibilités d'une expression chrétienne. Et c'est justement en un siècle de christianisme quantitativement réduit que ce même christianisme, devenu plus conscient, peut être à nouveau vivifié. Et c'est ainsi que le cardinal Ratzinger évoque l'Église sous le titre de « minorité créative ». L'Église comme minorité créative ou comme celle de la terre, non pas pour s'enfuir, s'enfouir et disparaître, mais pour vivifier ce monde, pour le gratter, pour le brûler. L'essayiste américain Rod Dreher, dont je vous parlais tout à l'heure, dans son livre « Le Paris bénédictin », posait un constat brutal et effrayant. « L'Église, dit-il, a perdu la bataille culturelle. C'est fait. Pas lieu d'y revenir. À vue humaine, la bataille est perdue, tout simplement. Les médias, Hollywood, la musique, la politique, la cancel culture, le mouvement woke, les théories farfelues issues des grandes universités, tout cela nous permet de dire, avec une très grande paix intérieure, que l'Église a perdu la bataille culturelle. Le monde d'aujourd'hui, à tout le moins le monde occidental, n'est pas un monde chrétien. Il est au mieux un monde qui vit ce que des sociologues américains, Smith et Lundquist-Denton, appellent depuis 2005 le déisme moral thérapeutique. Déisme, on croit vaguement en un Dieu qui est sans doute personnel s'il existe et qui a tout créé. Morale, Dieu veut que j'agisse bien, que je me comporte comme une bonne personne, a good person, à l'égard de mes amis, que je sois gentil et que je partage mon pain au chocolat. Déisme moral thérapeutique. Ah, Dieu est là pour me consoler, pour me faire des guili-guili, pour écouter mes prières et mes plaintes, pour me rassurer, pour me dire que tout ira bien. Et puis, on ira tous au paradis, quoi qu'il arrive. À part vraiment ceux que je trouve très très méchants. Donc, d'une certaine manière, l'Église a perdu la bataille culturelle. Et la question qui se pose alors, c'est de savoir comment vivre en chrétien dans ce monde, dans cette culture qui nous cerne de toutes parts, et dont, que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas indemnes. Nous-mêmes sommes marqués et façonnés par ce monde dans lequel nous sommes plongés. Je le dis sans le moindre jugement sur personne, mais les chrétiens, comme les autres, avortent, divorcent, ne respectent pas les lois, mentent, etc. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'Évangile. La culture contemporaine ne nous y aide pas non plus, qui nous imprègne. Alors comment faire? D'abord, une banalité, mais il faut se la redire parce qu'en réalité, elle est essentielle et fondamentale. Il s'agit de mettre Dieu en premier. Une vie chrétienne qui n'est pas fondée, enracinée, centrée sur le Christ ne pourra pas tenir. Dans son encyclique Deus Caritas Est de 2005, dès le premier paragraphe, Benoît XVI écrivait, je cite, « Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là, son orientation décisive. Dans son évangile, Jean avait exprimé cet événement par ces mots : Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. C'est du Christ Jésus, mes amis, que tout dépend. C'est notre relation à lui, le Christ, qui fait de nous des chrétiens, et des chrétiens vivant réellement leur vie chrétienne, et non pas baptisés à l'insu de leur plein gré, pour reprendre l'expression des guignols de l'info. C'est notre relation au Christ qui nous révèle notre dignité. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, au paragraphe 22e, affirmait, je cite, « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » C'est Jésus, le Verbe fait chair, qui révèle la vraie vocation de l'homme et nous dit en profondeur ce que nous sommes. Notre dignité tout entière dépend de notre relation au Christ. Cela paraît évident, mais c'est essentiel de redire que Dieu est premier dans notre vie chrétienne. Non seulement de le redire, mais de tout faire pour en vivre. Messire Dieu, premier servi. En ce temps de carême, posons-nous la question. Dieu est-il réellement premier dans ma vie? Est-ce que je fais tout pour fonder, enraciner ma vie sur lui? Dieu commande-t-il mes choix? Parce que notre vie chrétienne se fonde sur Dieu, alors la prière n'est pas une option. Elle n'est pas facultative. La prière entend précisément qu'elle est cette relation vivante, ce dialogue ineffable et mystérieux, parfois pénible et lent et long. La prière est vitale. Si nous voulons vivre en chrétien dans ce monde, nous devons être un peuple de priants. Saint Jean-Paul II, dans sa lettre Tertio Millenio Ineunte, le disait déjà. L'Église doit repartir du Christ. Et pour cela, au numéro 32 de cette lettre, il écrivait, je cite, « Il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ, qui fait de nous ses intimes. Demeurez en moi, comme moi en vous. Cette réciprocité est la substance même de l'âme de la vie chrétienne, et elle est la condition de toute vie pastorale authentique, réalisée en nous par l'Esprit Saint. Elle nous ouvre par le Christ et dans le Christ à la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne, écrivait encore Jean-Paul II, tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, parce qu'il revient constamment à la source et qu'il s'y régénère. La prière prend du temps, elle est lente, elle est parfois un labeur fastidieux. Nous n'avons pas toujours, et c'est heureux, les grands élans mystiques d'une sainte Thérèse d'Avila ou d'une sainte Catherine de Sienne. Mais dans la profondeur du cœur, inaccessible à notre raison et que seul l'Esprit de Dieu peut scruter, notre être est transformé. Et notre regard sur le monde devient théologal. Mettre Dieu en premier, cela revient à lui demander ce que lui veut, et non pas ce que nous voulons d'abord. Nous raisonnons, vous savez, à vue de nez, 2 centimètres, 2,5 centimètres. Et pourtant, il nous faut adopter sur le monde le regard même de Dieu. Ainsi, pour le connaître et le comprendre, ce regard de Dieu, la prière est nécessaire. Mais la formation intelligente de notre foi l'est tout autant. En 2011, dans la préface du UCAT, destinée aux jeunes, le catéchisme destiné aux jeunes est remis à eux au JMJ de Madrid, Benoît XVI écrivait, je le cite, « Vous devez connaître ce que vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision avec laquelle un spécialiste en informatique connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez la connaître comme un musicien connaît son morceau. Oui, vous devez être bien plus profondément enraciné dans la foi que la génération de vos parents pour pouvoir résister avec force et détermination aux défis et aux tentations de ce temps. Et il donnait alors ce conseil, sur le mode de la supplication. Étudiez le catéchisme. Il ne vous offre pas de solution facile. Il exige de vous une nouvelle vie. Il vous présente le message de l'Évangile comme la perle précieuse pour laquelle il faut tout donner. Étudiez le catéchisme avec passion et persévérance. Sacrifiez-lui de votre temps. Étudiez-le dans le silence de votre chambre. Lisez-le à deux. Formez des groupes et des réseaux d'études. Échangez avec d'autres vos idées sur Internet. Dans tous les cas, demeurez ouvert au dialogue sur votre foi. Prière intense. Devenir un peuple de croyants et de priants. Formation, afin que nous soyons comme des ingénieurs capables en quelques secondes à qui demande les raisons de notre foi, de proposer un exposé même succinct de ce que nous croyons. Le frère Thierry-Dominique Imbrecht pose la question. Vous êtes dans le métro, vous descendez dans deux stations et on vous dit, vous les chrétiens, vous êtes des polythéistes. Que répondez-vous? Vous avez 2 minutes. N'est-ce pas un test excellent de notre capacité à répondre, un test sur la qualité de notre formation. Prière, formation, et troisièmement, en revenir à ce que l'Église a toujours fait, s'enraciner dans la tradition pérenne de l'Église, en termes de prière, de liturgie, de manière d'être, de théologie. Et voici ce qu'écrivait un auteur chrétien anonyme à la fin du IIe siècle, dans une lettre adressée à un certain Diognète. Écoutez, je vous cite. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier, leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, entre parenthèses l'Eucharistie, mais qui n'est pas une table ordinaire. Et voici le grand secret. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont les citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Je passe quelques lignes. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue dans un corps visible. Ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. Autrement dit, si nous voulons redécouvrir ce qu'il y a de spécifique dans notre vie chrétienne, il nous faut porter sur le monde un regard qui soit en permanence surnaturel, tourné vers le ciel. Et ce regard ne s'obtient qu'humblement, par une demande faite inlassablement à Dieu, pour qu'il enracine dans notre cœur, pour qu'il enracine notre cœur dans le vrai et grand trésor qu'il est lui-même. Un regard surnaturel sur le monde qui nous fasse prendre conscience qu'en tout lieu, qu'à tout instant, le Christ, Jésus, est l'unique maître du temps et de l'histoire, et que par des voies qui nous échappent, il conduit le monde à son plein accomplissement en collaborant avec nos libertés. Le Christ est tout-puissant, et nous-mêmes qui sommes plongés dans les vicissitudes et les conflagrations douloureuses de notre temps, nous avons sans cesse à renouveler la petite fille espérance en revenant au Christ, en nous redisant sans cesse que nous sommes faits pour le ciel, c'est là qu'est notre but, et non pas pour cette vie seulement ici-bas. La vie éternelle est déjà commencée, puisque la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Nous avons à grandir dans l'espérance et à renouveler en nous cette espérance. C'est elle, la petite fille qui tient la main de la foi et de la charité, qui nous fait prendre conscience que nous entrerons dans la gloire du ciel en passant par la mort et par la croix. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, demandons au Seigneur, afin que nous puissions être d'authentiques chrétiens, en prise avec les événements de ce monde, des chrétiens qui ne lâchent rien, mais qui proposent à temps et à contre-temps la bonne nouvelle, le témoignage, en grec martyr, de leur foi. Demandons au Seigneur le don précieux de l'espérance surnaturelle. Demandons ce regard théologal qui nous donne de voir le monde comme Dieu le voit. Et lorsque nous serons plongés dans la nuit, sans plus rien comprendre, il nous restera toujours le secours de la confiance. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Je ne comprends rien, mais je choisis de te faire confiance. C'est ainsi qu'au tout début du soulier de satin, la pièce de Claudel, le père jésuite, grand et maigre, attaché à une croix qu'on a jetée à la mer, se tournait vers Dieu. Je cite: Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois, il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles, et ma volonté en présence de votre règle perplexe et rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je le suis, et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui soit capable de s'écarter si peu. Et un peu plus loin, je me suis donné à Dieu, et maintenant le jour du repos et de la détente est venu, et je puis me confier à ces liens qui m'attachent. Oui, Jésus nous l'avait dit. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. La croix ne donne pas la mort. Elle est source de fécondité et de vie, non seulement personnellement, mais aussi pour ceux qui nous sont proches, et même pour ceux qui nous haïssent. Être chrétien dans le monde, c'est cela. Vivre de manière surnaturelle en étranger, en gens de passage, et non pas en gras bourgeois installé qui s'apprête à s'endormir. Chrétiens, nous sommes les veilleurs de ce temps, le poil à gratter, le caillou dans la chaussure, l'empêcheur de tourner en rond, le signe de contradiction que Dieu donne au monde. Que le Seigneur, donc, nous fasse le don précieux de sa grâce pour que nous puissions tenir jusqu'au soir de notre vie terrestre notre place dans ce monde qui sombre dans la nuit. Puisse le Seigneur faire de nous des veilleurs, espérant la venue de la lumière, attendant la venue de l'aurore, désireux de la venue du Christ. Maranatha, amen. Oui, viens, Seigneur Jésus.
Chrétien, par temps de crise, vous venez de suivre une conférence du frère Guillaume, conférence intitulée « Dormez bourgeois, l'État veille », conférence enregistrée le 28 février 2021 lors des conférences de carême proposées par les dominicains de Bordeaux.